Voilà, Nikita Krivoshein, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour.
Voilà, nous sommes avec vous pour parler d'un livre. Peut-être avant d'en parler, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots à nos auditeurs.
Ma défunte mère a écrit un livre édité par Albin Michel que je recommande à nos auditeurs, Les quatre tiers d'une vie. Si elle a vécu quatre tiers d'une vie, moi je n'en ai vécu que trois. C'est une vie en trois actes. Premier acte, naissance à Boulogne-Billancourt en 1934. Ensuite, en 1948, par la naïveté et le manque de réflexion de mes défunts parents qui ont opté pour la nationalité soviétique et le retour dans leur pays natal, ayant cru la propagande stalinienne disant que c'en était fini avec le communisme et que c'était la renaissance de l'Empire russe et de l'orthodoxie, ils y sont allés. Ce qui fait que moins d'un an plus tard, mon père a été coffré. J'ai dû aller ouvrier en usine, faire mes études en même temps, pour être mis dans la prison de la Lubyanka, au centre de Moscou, en 1957, à la suite du Festival international de la jeunesse et des étudiants pour la paix. J'ai été condamné à 3 ans de camp de rééducation par le travail pour avoir envoyé, sans ma signature, un texte qui a été publié par le grand quotidien du soir, Le Monde. Et à ma sortie des camps, en 1970, déjà, j'ai été l'un des premiers sur lequel a commencé à être rodée la méthode de la semi-expulsion des dissidents. Lorsque le pouvoir soviétique a pris conscience de ce qu'il était moins à son détriment d'envoyer, je n'aime pas le mot les dissidents, je préfère dire les résistants, à l'étranger, que de les garder dans des camps de concentration. Après que cette technique ait été éprouvée sur moi, elle a fait beaucoup de répétitions. Je ne nommerai qu'Alexandre Solzhenitsyn, que le pouvoir, au lieu de remettre dans les camps, ce qui aurait, vous imaginez ce que ça aurait, comment ça serait reflété sur son image, a préféré l'expulser, croyant que ces gens qui ne sont pas d'accord, qui protestent, qui résistent, sont moins nocifs étant en Occident que sur le territoire national. De retour en France, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu redevenir interprète de conférences et le rester, c'était en 1970, et le rester jusqu'à mon départ à la retraite.
Alors, Nikita Krivoshein, vous avez donc, vous l'avez dit à l'instant, connu ce qu'on a appelé, bien sûr, le goulag à l'époque en Union soviétique. Mais au départ, par vos parents, vous étiez déjà des émigrés russes, hein, d'ascendance noble, qui avaient déjà fui à la Révolution, j'imagine, ou un peu avant la Révolution.
Mon défunt père, Igor Krivoshein, a pu combattre une période très courte au front de la Première Guerre mondiale, de la guerre de 14-18, puis après le putsch bolchevique d'octobre 17, il a réussi à joindre le sud de la Russie et l'armée blanche, sous le commandement du général Vrangel, il a pris part au combat, il a défendu la presqu'île de la Crimée, mais a dû embarqué sur un croiseur anglais lorsque l'armée russe, l'armée blanche, a connu malheureusement sa débâcle. Il s'est installé en France où il a obtenu un diplôme d'ingénieur à l'école supérieure d'électricité. Son père, à lui, était premier ministre du gouvernement du sud de la Russie, du gouvernement du général Vrangel, décédé par la suite à Berlin. Voilà, que puis-je ajouter ? Que mon père a participé à la résistance d'une manière très active, ce qui lui a valu un séjour de 11 mois dans les camps de Buchenwald et Dachau.
Oui, là, alors donc votre père avait connu déjà les camps, alors cette fois les camps nazis, et puis après vous parlez donc de ces camps qu'on appelait les goulags en Union soviétique. Vous avez toujours, du coup Nikita, vous avez toujours vécu dans cette double culture franco-russe, même si vous avez été élevé à Paris hein, au départ.
J'ai toujours vécu, je suis encore de la génération, celle à laquelle appartenait le défunt Nikita Strouv, éditeur en chef du bulletin de l'Association des étudiants chrétiens d'origine russe. J'appartiens à cette génération qui n'existe plus maintenant, ou très peu, qui était bilingue dès la tendre enfance, dès la première enfance. Comme d'ailleurs l'étaient à Pétersbourg et Moscou les générations précédentes de nos familles, la noblesse russe parlant parfois mieux le français que le russe.
Et oui, tout à fait. Vous avez parlé à l'instant, je prétends pas du tout être historien, mais j'ai le souvenir de, vous l'avez mentionné à propos de vos parents, Nikita Krivosheïne, c'était tous ces intellectuels pro-communistes de Paris, de France, qui voyaient l'Union soviétique comme une espèce de paradis, et finalement tout le monde a déchanté par la suite. Et vous parliez de Alexandre Solzhenitsyn, il avait déjà écrit un livre qui avait été retentissant hein, pour dire justement la réalité de ce qui se passait en Union soviétique. Beaucoup d'intellectuels ont continué à espérer dans cette Union soviétique en France sans savoir vraiment ce qui se passait dans le pays, que Solzhenitsyn avait été notamment l'un de ceux qui avait réveillé peut-être un peu les consciences.
Certainement. Certainement. Je dirais sans exagérer que Solzhenitsyn, avec lequel mon père a séjourné dans le camp qui est décrit dans le premier cercle, le camp des ingénieurs et des spécialistes, et qui par la suite est resté son ami jusqu'à la fin de ses jours à Zurich, Solzhenitsyn a en effet, je crois qu'on peut le dire sans exagérer, a eu une fonction messianique et prophétique.
Et prophétique, oui.
Les élections de quand Valéry Giscard d'Estaing a été élu face à Mitterrand en 1974, c'est certainement un peu grâce à l'influence de la parution en français de l'Archipel.
Oui. Et alors, Nikita Krivosheïne, ce livre s'intitule « Des miradors à la liberté » et il y a un sous-titre « Franco-russe toujours en résistance ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je veux dire que dans mon enfance, j'étais conscient du mal que représentait l'occupation nazie. J'en étais parfaitement conscient. Je crois avoir été le témoin de deux grands événements historiques, ce qui est déjà beaucoup pour une vie, c'est-à-dire la libération de Paris, qui était le signe précurseur de l'effondrement du nazisme, j'étais déjà jeune étudiant à Moscou. En mars 1953, j'étais là lorsque Staline a crevé.
Eh oui. Et vous avez même connu, du coup, la chute du mur de Berlin.
Là, j'étais déjà à Paris.
Là, vous étiez déjà, oui. C'était plus tard, mais enfin, ça fait des beaux, sacrés événements.
Oui, ça, exactement. Je dis que ces grands événements historiques, c'est bien sûr la libération de Paris et la chute du nazisme, suivie par la crevaison de Staline et l'effondrement du communisme avec la chute du mur.
Et alors, Nikita Krivosheïne, cette expérience quand même extraordinaire et j'imagine peut-être douloureuse, mais en tout cas vous êtes passé par les camps en Union soviétique, vous êtes resté combien de temps ? Est-ce que vous avez fait des rencontres aussi importantes ?
Ça peut vous paraître paradoxal, mais je suis resté en ex-URSS 24 ans, dont les premières 5 années dans la ville d'Oulianovsk, qui était pour moi et qui reste une ville symbolisant la géhenne, symbolisant l'enfer. Puis à Moscou, où j'ai vu la crevaison de Staline, puis la déstalinisation, mais jamais les camps pour les déportés, les camps de déportés politiques, n'ont cessé d'être peuplés et bien peuplés. Dans le train qui me ramenait de Mordovie vers Moscou le lendemain de ma libération des camps, j'ai entendu dans la radio, par la radio du wagon, par la radio du train, Khrushchev, qui était en visite officielle en Inde, et qui avait le culot de dire, et de la répéter d'ailleurs par la suite, il n'existe plus aucun détenu, aucun déporté politique en URSS. Alors qu'il y en avait au moins entre 2 et 3 000 dans les camps de Mordovie à l'époque.
Oui. Voilà, petite propagande qui continuait, quoi.
Absolument.
Et donc, Nikita Krivosheïne, vous avez repris le train, vous avez été libéré des camps. Comment ça s'est passé, votre retour? Vous êtes retourné en France et à Paris ensuite?
C'est en 1970 que ça s'est passé. J'ai été sans doute, autant que je sache, le premier sur lequel a été testée et puis reprise et reproduite beaucoup, beaucoup de fois la méthode de semi-expulsion par l'autorité soviétique.
Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que je déposais chaque année des demandes de court séjour de visite en France, qui m'étaient systématiquement refusées, mais je persévérais. Et en 1970, lorsque a éclaté l'affaire de la tentative du détournement d'avion et le procès qui s'en est suivi avec 2 condamnations à mort qui ont été commuées en réclusion à vie le 31 décembre 1970, les soviets se sont dit qu'il valait mieux avoir des personnes non souhaitables loin en Europe que chez eux, que le détriment, leur nocivité en était réduite par l'expulsion. C'est une technique qui s'est poursuivie après qu'elle ait été testée sur moi, sur des dizaines et des dizaines d'opposants.
Oui. Et une fois de retour à Paris, après cette longue expérience, vous avez pu finalement vous réintégrer à la vie française, parisienne, retrouver un emploi et...
J'ai eu dans la vie une chance immense. Et c'est précisément une chance, ce n'est pas un mérite. Cette chance était d'être susceptible d'avoir la possibilité purement cérébrale de faire ce qui s'appelle de l'interprétation simultanée, de la cabine. Et à l'époque, en 70, il y avait peu de professionnels. Par conséquent, j'ai eu l'immense bonheur de reprendre immédiatement, presque immédiatement à mon arrivée à Paris, ce métier d'abord à l'UNESCO, puis dans d'autres institutions des Nations Unies, OMS, BIT, etc.
Et alors, ce qui est extraordinaire en parcourant le livre, hein, c'est qu'à la fois, on retrace toute une histoire qui est propre au XXe siècle, que vous avez traversée, hein, vous-même, Nikita Krivosheïne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette histoire, vous racontez tout un tas de rencontres. C'est très concret, on vous suit hein, presque pas à pas à travers le livre et toutes les rencontres que vous avez pu faire, tous les lieux par lesquels vous êtes passé. C'est très très riche, hein.
Je suis profondément reconnaissant à la Providence d'abord d'avoir été clémente avec moi. Je m'en suis tiré avec ces 3 ans de camp, alors que plus tôt, et bien sûr plus tard, sous Brejnev, le châtiment que m'aurait infligé le régime aurait été immensément plus lourd. Là, je m'en suis tiré, grâce à Dieu, avec 3 ans de camp seulement, mais je suis reconnaissant à la Providence, encore une fois, d'y avoir séjourné, parce que avant de m'y retrouver, je me posais, jeune homme venu de France, la question de savoir soit tout le monde autour de moi est fou, et je ne le suis pas, soit c'est moi qui suis fou, et tous les gens qui m'entourent sont normaux. C'était l'effet qu'avait produit sur moi le stalinisme dans son épanouissement, à sa culmination. Et mon arrivée dans les camps m'a permis d'oublier cette question, parce que pour la première fois depuis 5 ans, de mon arrivée, de 47 à 10 ans, de 47 à 57, je me suis retrouvé avec des gens tout simplement normaux.
Et vous avez rencontré les normaux dans les camps. Voilà, c'est quand même...
J'ai rencontré les normaux dans les camps, et j'aimerais citer 2 personnalités qui restent très chères à mon cœur, il y en a beaucoup. C'est le chanoine lituanien, le chanoine catholique romain lituanien, Stanislav Kiskis, qui était un homme admirable. C'était son 2e séjour dans le camp. Le premier, il avait été condamné pour avoir sauvé des militaires soviétiques alors que la Lituanie était envahie par la Wehrmacht. Il a sauvé des militaires soviétiques blessés, simplement parce qu'ils étaient blessés et qu'ils faisaient son devoir de chrétien, qui ont ensuite été récupérés, ce qui n'a rien d'étonnant, par la commandature allemande. Il était condamné pour trahison de militaires soviétiques. À son retour en Lituanie après la mort de Staline, il a réuni autour de lui un cercle d'étudiants où il leur enseignait, où il discutait des bases de la théologie catholique. Et ça, ça lui a valu une seconde condamnation. C'est là que je l'ai rencontré. La 2e personne dont je garde un souvenir absolument fort est un prêtre orthodoxe né en Estonie à l'époque où l'Estonie était indépendante, devenu prêtre après la guerre, et qui n'avait trouvé rien de mieux que de réunir autour de lui un cercle de jeunes où ils étudiaient la philosophie religieuse russe du XXe siècle, en particulier Berdiaïev, Serge Bulgakov, etc. Et ça lui a valu une condamnation à 10 ans, c'est là que je l'ai rencontré.
Et alors, et vous-même, Nikita Krivosheïn, votre christianisme, est-ce qu'il est plus orthodoxe? Est-ce qu'il il bascule aussi un petit peu entre le catholicisme et l'orthodoxie?
Je ne peux pas dire qu'il bascule, je suis...
Bascule, c'est peut-être pas le mot, non.
Je suis né, baptisé dans l'orthodoxie de tradition russe, mais je m'en tiens à la définition formulée par quelqu'un pour lequel j'ai la plus haute estime, le défunt pape Jean-Paul II, d'origine polonaise, comme vous vous en souvenez, qui disait que le catholicisme et l'orthodoxie sont les 2 poumons du christianisme.
Oui, très très belle formule. Alors je le dis à ceux qui nous écoutent, à nos auditeurs, ce livre est vraiment très riche, il fourmille d'anecdotes, parfois même de choses joviales et parfois de choses très dramatiques. Et puis aussi à la fin, il y a une prière que moi j'ai découvert, c'est la prière d'Alexandre Solzhenitsyn que vous avez laissée à la fin du livre. Très très belle prière.
En effet. Mmh.
Magnifique prière.
Magnifique prière.
Très très belle.
Magnifique prière. Ma mère disait que le propre d'un génie, et c'est le cas de très peu de créateurs, que le propre d'un génie est de savoir, d'être conscient, de savoir de lui-même qu'il est un génie. Et c'est le cas de Solzhenitsyn qui a su le refléter et l'exprimer dans la plus grande modestie possible dans cette admirable prière.
Oui. En tout cas, je rappelle donc à nos auditeurs le titre, hein, des Miradors à la liberté, un français russe toujours en résistance. Ce livre, il a été écrit donc, c'est avec l'édition Life Edition. Voilà, et je le recommande vivement voilà, à nos auditeurs. Et Nikita Krivoshin, en tout cas, merci beaucoup hein, pour avoir partagé ce moment avec les auditeurs de Radio Maria France.
C'est moi qui vous remercie. C'est une radio que j'écoute autant que possible, régulièrement.
En tout cas, merci. Merci beaucoup pour ce partage.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir.